Il est présentement 13h17, ce sera le temps d'aller rejoindre notre ami Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. On avait une excellente discussion sur les élections municipales hors d'onde parce que à Montréal, Rémi, tu me disais, Soraya Martinez est en avance de 10 points.
Oui, dans le dernier sondage que j'ai vu passer, c'était à peu près 10 points. Ça ne m'étonne pas du tout dans la mesure où il y a un vote de contestation fort à Montréal qui commence à se consolider autour de Projet Montréal. Les gens sont tannés. Et la stratégie de Soraya Martinez, qui est, à mon avis, une stratégie douteuse sur le plan démocratique, elle fonctionne quand même. C'est quoi cette stratégie-là? C'est de consister à répondre à chaque fois qu'on lui demande « Qu'est-ce que vous allez faire? » On va consulter. Donc, elle répond toujours « On va consulter ». Et c'est habile de sa part. Je ne sais pas c'est qui a inventé ça de son côté, mais c'est très habile parce que dans les dernières années, ce qu'on reprochait à Projet Montréal, c'était de ne pas consulter. Ou alors de consulter et d'aller dans le sens contraire des résultats de la consultation. Et là, ce que Soraya a dit, bien, écoutez, sur la question des pistes cyclables, je ne vous dis pas il va en avoir combien plus, je vais consulter. Ah, sur la piétonnisation du Vieux-Montréal, je ne vous dis pas si on va le faire, je vous dis qu'on va consulter. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'une élection, c'est une consultation. Donc, j'aurais préféré qu'elle présente des projets, des idées, et que l'élection soit un plébiscite sur ses idées et ses projets. Mais elle a réussi, et c'est habile sur le plan de la rhétorique, de dire non, les idées vont venir après l'élection.
Tu vois, Respect citoyen prend possiblement là, la même tangente ici à Québec, de dire « Ah, réseau de transport structurant, on met ça sur pause, on va consulter, puis on va revenir avec le projet que la population veut. Telle chose, on met sur pause, on va consulter la population. » Mais présentement, en raison des chicanes avec sa mamade, ça ne porte pas fruit comme ça porte fruit là, pour Soraya Martinez. Là. Tu voulais nous parler, Rémi, du sondage Souveraineté. Ça a fait la manchette tout le week-end dans les journaux de Québécois. Et là, il y a un sondage qui a été publié lundi. Il y a peu d'appétit pour la souveraineté. Qu'est-ce que tu as vu, toi, derrière ce sondage-là? Tu me disais, hey, Jeff, je veux te parler des dessous du sondage.
Oui. Ben, avant toute chose, moi, je fais juste quand même noter, on note tous, sans exception, un rapport trouble au sondage au Québec. Parce que je pense que la majorité d'entre nous, on prend ce qui fait notre affaire, puis on ne prend pas ce qui fait notre affaire. Donc, quand un sondage ne nous dit pas ce qu'on veut entendre, on dit que c'est rien qu'un sondage. Puis sur la question de la souveraineté, c'est un exemple parfait parce que la souveraineté, elle est projetée dans le futur. Même si on demande aux gens, voteriez-vous oui ou non aujourd'hui, il n'y en a pas de campagne référendaire. Donc, quand le résultat ne fait pas notre affaire, on dit « Ah, ben c'est ça, c'est pour ça, c'est parce que ce n'est pas aujourd'hui, j'en tiens pas compte. » Puis quand il fait notre affaire, comme cet été, lorsqu'il était question de ce 48 % des jeunes de 18 à 34 ans en faveur de la souveraineté, moi le premier, j'étais très enthousiaste là-dedans. Et là, deux semaines après, on apprenait que ça descendait. Puis là, ah, ben écoute, peut-être qu'il y a eu un problème dans la méthodologie. Il faut quand même être honnête. On prend soit les sondages au sérieux tout le temps ou jamais. Moi, je pense que dans ce sondage-là, la question de la souveraineté, elle est peu pertinente dans la mesure où je viens de le dire, il n'y en a pas de campagne référendaire. Je rappelle qu'à un an du référendum d'octobre 1995, et là, on n'est pas à un an d'un prochain référendum, là, on est possiblement à deux ans et demi du prochain référendum si le PQ l'emporte en octobre 2026, mais à un an donc du référendum d'octobre 1995, le oui était à 33 %. Donc, quand il y a des gens qui me disent « Eh, boy, les souverainistes doivent être déprimés, le oui est à 35 %», je leur dis « Oui, mais il était à 33 un an avant le référendum d'octobre 1995. » Donc, là-dessus, il faut quand même le rappeler. Et comme je vous dis, je ne le prends pas tellement au sérieux parce qu'on nous demande de nous positionner sur un truc qui va survenir plus tard. Mais dans le sondage, pour répondre à ta question, il y a des trucs sur lesquels on nous demande de nous positionner et c'est actuel. Et ça, ça m'interpelle davantage. La question de la Constitution. On demande aux Québécois, vous avez deux choix. On fait la souveraineté demain matin ou on signe la Constitution sans même la réformer. Là. On la signe telle qu'elle. 55 % des Québécois choisissent l'option de signer la Constitution. On demande aux Québécois, est-ce que vous vous identifiez plus comme Québécois, Canadien, les deux? Québécois, la réponse Québécois, c'est 40 %, c'est 25 % de moins qu'il y a 30 ans. Moi, pour moi, c'est ça les deux sujets du sondage. Comment c'est possible qu'on obtienne des résultats pareils après 10 ans de gouvernement Trudeau? On a souligné ça il y a quelques jours. Ah, 10 ans de gouvernement Trudeau, ça a fait en sorte que l'identité canadienne était floue. On ne savait pas trop de quoi il était question. Immigration de masse, multiculturalisme exacerbé, sur la dopamine, avec un modèle québécois qui était présenté comme étant l'envers de cette
Donald Trump?
Ben, alors, c'est...
Faut
Oui.
l'expliquer, c'est tout ça. Parce qu'hier, c'est ça, hein, on jasait avec un autre intervenant, puis on pensait, pour Luc Laliberté, que c'était Donald Trump qui a ramené cette fibre-là souverainiste. Mais est-ce que c'est pas simpliste de penser que ce n'est que Donald Trump?
Moi, je pense que c'est simpliste de penser que ce n'est que Donald Trump, parce que sur la question, par exemple, de la Constitution, je veux dire, en quoi Donald Trump...
Ouais, puis là, la Constitution, c'est la nuit des longs couteaux, là. Mais
Ben
là, il y a
oui, tu sais.
55 personnes, 55 % des citoyens au Québec qui diraient, hey, il n'y en a pas de problème finalement avec la nuit des longs couteaux, on signe le papier.
Tout à fait. Puis la Constitution, je veux juste le rappeler quand même, là, ça n'a jamais été signé par aucun premier ministre du Québec. Puis il y en a eu des premiers ministres fédéralistes là, depuis 82, là. Jean Charest, Philippe Couillard, on les connaît. J'ai même envie d'ajouter François Legault. Donc, il y a, je pense que cette question-là, c'est quand même douteux, là. C'est quand même louche, ça fait quand même mal pour les souverainistes. C'est peut-être plus douloureux que le 35 % qui veut à peu près rien dire, parce que là, vous vous dites, pendant des années, ça a été un argument non seulement utilisé par les souverainistes pour mobiliser le nationalisme, mais même les fédéralistes ne voulaient rien savoir de ce papier-là. Et on est prêt à le signer. Moi, je pense donc que le fantôme de Donald Trump, c'est court. C'est même très utile pour certains souverainistes de dire c'est Donald Trump, puis ça va passer, parce que ça nous incite à ne pas faire l'examen de conscience. Il y a eu des années difficiles pour le mouvement souverainiste où on hésitait à mettre de l'avant l'option référendaire. Ça ne fait que depuis 5 ans que c'est redevenu une priorité du Parti québécois, je le rappelle. Pendant des années, on était gêné d'aborder les questions identitaires. Ça a fait son travail, ça, sur l'âme collective, sur la psyché collective des Québécois. Et des fois, c'est des années plus tard qu'on remarque l'effet durable et l'effet inattendu, parce qu'on pensait que ça n'en allait pas de même, de ce genre de décision-là. Donc, oui, Donald Trump est responsable de certains des résultats du sondage, mais c'est plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui se résignent à être Canadiens parce que être Québécois, ah, c'est un petit peu moins clair qu'est-ce que c'est. C'est affirmatif, on est gêné, on hésite à le faire. Donc, on va aller vers quelque chose qui existe déjà. Puis je ne dis pas que l'option fédéraliste canadienne, pour le dire ainsi, est plus clairement affichée. Regardez, là, c'est quoi être Canadien? Criquet. Je veux dire, c'est juste qu'au moins, ben, le Canada, ça existe. Donc, c'est toujours bien plus simple de s'identifier à ça qu'à quelque chose qui est vaseux.
Écoute, j'ai peut-être une question insignifiante, mais ça me dérange pas, je la pose. Je la pose pour ceux qui se la posent puis qui le feront pas. Est-ce que c'est juste une mode actuellement chez les jeunes? Ça peut-tu être qu'une mode? 3-4 personnes, 3-4 électrons politisés qui ont trippé là-dessus, qui sont fervents du souverainisme, qui ont des allégeances politiques qui vont de soi, mais que c'est devenu hot d'être souverainiste. Et là, je dis pas ça en ayant des préjugés envers personne, je me questionne.
Ah oui. Mais c'est, moi, je pense que ça peut être en partie une mode, puis c'est pas un problème. Regardez, là, quand Pierre-Elliott Trudeau disait en 80, si on perd le référendum, on démissionne de notre poste, que Pierre, il y avait la Trudeau-manie, c'était une mode, ça aussi, là, dans les années 60-70. Une mode, ça veut juste dire que ça passe, mais ça veut pas dire que on n'y revient jamais. Ça fait des années que je le dis, les jeunes vont embarquer de façon très, très, très importante derrière l'option souverainiste. Regardez bien dans les prochaines années lorsque ça va devenir viral. Mais là, ça ne peut pas être viral. C'est qui le gouvernement? C'est la CAQ. Est-ce que la CAQ veut tenir un référendum? Non. Quand est-ce que va avoir lieu le prochain référendum? Il est question 2027. Franchement, ça ne peut pas devenir viral encore. Mais lorsque ça va le devenir, et il y a des artistes qui commencent de plus en plus à prendre la parole. Ludivine Reding, on a une chanteuse également, là, dont j'oublie le nom, qui a pris la parole pour l'indépendance la semaine dernière. Il y a des artistes comme Paul Piché qui reviennent dans l'espace public ce matin.
Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne.
Donc, quand ça va redevenir quelque chose de dit, de partagé, d'affiché publiquement, ça va devenir une mode. Et de toute façon, ça prend 50 % plus un.
Rémi Pierre Poilievre était dans un podcast à connotation conservatrice. Il était bien évaché dans son divan. Puis là, ben, il s'est senti comme chez eux ou à la taverne avec une petite bière, puis il a laissé tomber. La GRC aurait dû arrêter du monde de l'équipe de Justin Trudeau dans le scandale SNC-Lavalin. Aujourd'hui, Pierre Paulus a pris parole dans les médias. Je te fais entendre justement un extrait de M. Paulus à l'émission de Mario Dumont.
Ben, mal à l'aise, hein?
Est-ce que la directrice de la GRC n'a vraiment pas fait son travail? Parce que c'est quand même assez surprenant que le Parti conservateur, un parti de la loi et l'ordre, s'en prenne comme ça à la GRC.
Ouais, écoutez, moi, ce qui m'intéresse plus dans cette histoire-là, c'est la posture de Poilievre. La question de la GRC, c'est une question qui m'est complètement extérieure. Là, je ne suis pas un témoin privilégié dans cette affaire-là. Ce serait impertinent, à mon point de vue. Mais Il y a des gens qui sont surpris que Poilievre ait fait cette sortie-là. Moi, je veux juste leur rappeler une chose, là. Aux dernières élections fédérales, Pierre Poilievre a obtenu le meilleur score du Parti conservateur du Canada depuis Brian Mulroney. Donc, même si c'est Mark Carney qui a remporté l'élection, même si on a remarqué pendant la campagne que le style de Poilievre ne servait peut-être pas la posture éventuelle qu'il puisse occuper hein, le rôle de premier ministre, bien, il n'y a pas eu d'argument béton voulant qu'il change son fusil d'épaule, voulant qu'il change son style. Lui, là, quand il s'est réuni avec sa gang, même au lendemain de l'élection, après qu'il n'ait pas réussi à se faire élire dans sa propre circonscription, il les a regardés puis il leur a dit, je ne vais pas changer. Pourquoi je changerais? Ça a marché. Non, mais c'est vrai.
T'as
Il
raison.
y a quand même, il y a quand même la moitié du caucus qui s'est probablement dit, ouais, mais c'est avant que la campagne se soit déclenchée, on était censé gagner. Là, ensuite, il était plus possible qu'on gagne. Il faudrait qu'il change. Donc, il y a vraiment une crise en ce moment importante au Parti conservateur du Canada. On ne peut même pas en soupçonner l'ampleur parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment qu'il s'en aille ou alors qu'il change son style. Mais lui, il est convaincu que c'est ça qui a servi le parti. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il y a des arguments qui vont venir des deux côtés, puis honnêtement, je ne saurais pas être capable de trancher.
Ça
Hein?
sert
Je
à
ne pourrais
quoi?
pas faire ça parce que si jamais il changeait son style, il y aurait quand même un risque qu'une partie du vote qui va aux conservateurs s'en aille ailleurs.
Assurément, ça c'est sûr, sûr, sûr que c'est important de le surveiller, puis je pense qu'il le prend en compte. Mais ça servait à quoi d'avoir ces propos-là dans le podcast?
Ben, est-ce que c'est la question, c'est ça sert à quoi?
Ça servait à quoi, oui, d'avoir ces propos-là dans le podcast?
Ça sert à rien. Il s'est échappé. Ça arrive à tout le monde de s'échapper. Moi, le Parti conservateur du Canada n'a pas en ce moment le besoin de consolider cette base-là. Hein, il y a une base qui est derrière le Parti conservateur. On n'a pas remarqué dans les sondages qu'elle était partie vers le parti de Maxime Bernier. Donc, si la stratégie, ça consistait à vouloir mousser cette base électorale-là, vouloir la réveiller, c'est raté. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une stratégie. Je pense que le Parti conservateur est intelligent, là, puis ce n'était pas une intention en bonne et due forme que d'aller dans ce sens-là. Il s'est échappé comme ça arrive à tout le monde. Puis c'est sûr que cette fois-ci, ça va être difficile pour lui de dire, ah, mais moi, j'ai rien à voir avec Donald Trump, je m'en inspire pas du tout. J'aime pas du tout son style. C'est qui ça, Donald Trump? Mais non, on a compris d'où ça venait, là.
En effet, t'as entièrement raison, Rémi Villemur. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te parler. On te parle les mardis et jeudis aux alentours de 13h. Je te laisse partir pour les studios du 99.5. Bonne émission ce soir, 18h, et on se parle jeudi.
Bye-bye, tous les deux. Bye-bye.
Salut Rémi, bonne fin de journée. Rémi Villemur, que vous entendez sur nos ondes, les mardis et jeudis aux alentours de 13h dans l'émission On en jase. Pascal, écoute bien ça. One more look at it. Wild pitch. High fly ball. Left field. A Rosarena. Watches it go. Ah, oh, Pascal, après 32 ans, les Jays de Toronto qui atteignent enfin la Série mondiale. Coup de circuit de 3 points du vétéran George Springer hier en 7e manche. Une victoire de 4-3. Les Jays vont commencer la Série mondiale vendredi à domicile contre les Dodgers de Los Angeles. Gars, le poil levé, ses bras tellement
même,
que j'ai capoté.
Même chose. En plus, ils n'ont pas eu des années nécessairement très faciles. Il a fallu qu'ils se battent hein,
ouais.
Dans les dernières années.
Ah,
là,
vraiment?
Là, c'est payant. Ils ont un nouveau stade. Les fans sont capotés, virés
oui,
sur le top.
C'est fou.
T'as plein de gens de la ville qui sont allés voir les Jays. Là, malheureusement, les billets sont rendus très, très chers.
1 500 $ le billet le moins cher aujourd'hui, dans le pit.
Tout a augmenté.
J'ai
deux
de mes chums qui trippent, sont allés aux deux premiers matchs de l'autre série. Puis là, on les textait tantôt, on disait, y allez-vous? Ils ont dit, êtes-vous malade cette année-là?
Non, c'est très difficile, ouais, au niveau de la finance. Par contre, ben, y a l'ambiance
ouais.
Qui peut être autour du stade, qui peut être intéressante,
exactement.
Mais ça aussi, c'est cher. Ouais. Mais on peut tellement être content de tout ça.
Oui.
Cette fièvre du baseball-là, se reflète aussi à Québec.
Oui.
Veux, veux pas.
Ah,
c'est
oui.
Donnant-donnant.
Puis là, aujourd'hui, c'était beau parce qu'il y a plein de vidéos sur les médias sociaux de Vladimir Guerrero Jr. quand il était tout petit. Puis il avait son gilet des expos avec son père, Vladimir
wow,
Senior.
J'ai pas vu ça. OK,
ouais.
Je vais aller
ah,
voir
oui,
ça.
Puis c'était beau. Il a dit, je suis né au Canada, je suis né pour ça. Et c'est pour ça que j'ai signé ici à long terme.
Ouais, ces histoires-là.
Ah, c'était beau.
C'est pour
avec
ça.
Les yeux
regarde le
dans l'eau. Ah! J'avais les frissons, mais c'était bouché une bière. Mais c'était bouché une bière de plus. J'ai dit, je bois pour toi, mon Vladimir. Sinon, dans le sport, le Canadien l'a emporté 4-2 hier sur les Sabres. Prochain match demain soir à Calgary. Et victoire des Lions de Détroit 24-9 sur les Buccaneers de Tampa Bay.
Ils sont forts, L'année passée, on se doutait là, que cette année, ça allait être assez exceptionnel.
Ils sont très équilibrés cette année, les Lions. Pas juste offensivement, mais une très bonne défensive.
Les fans des Lions, assurément, connaissent une année comme les fans des Bengals ont connu.
C'est un bon parallèle. Là, trois ans que tu t'es rendu au Super Bowl.
Ça tourne le fer en plaie, mais je dirais une coupe d'année.
C'est un bon parallèle.
Ils ont attendu et maintenant ça paie.
Et les Seahawks de Seattle l'ont emporté 27-19 sur les Texans de Houston. Ça, la division ouest de la conférence nationale est exceptionnelle. Trois équipes à 5 victoires, 2 revers. 49ers de San Francisco, Seahawks de Seattle, Rams de Los Angeles. Ça va être serré jusqu'à la fin. C'est de l'excellent football. On fait une courte pause. Pascal, par la suite, on revient avec quelques manchettes. Et Gaétan Pageau, le maire sortant de la ville d'Ancienne Lorette, vient s'asseoir avec nous. Hier, on a reçu Alain Fortin, le candidat à la mairie, justement, l'opposant à M. Pageau. Ben, M. Pageau veut venir remettre de l'ordre d'un peu avec ce qui s'est dit.
C'est de bonne guerre
hier
politique.
Sur nos ondes, c'est de bonne guerre. On montre les deux côtés de la médaille à Boulevard 102. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102. On en jase.